Bienvenue, bien-aimés. On va tout simplement se tenir debout encore quelques instants, tout simplement pour prier, pour remettre le temps de la parole de Dieu entre les mains de notre Dieu. Donc, Seigneur, nous voici réunis, Seigneur, pour regarder ta parole, pour se faire instruire à travers la connaissance de ta parole. Je n'ai pas la prétention d'amener à ton peuple peut-être plein de choses nouvelles, mais au moins recenser ta parole pour qu'elle puisse encore une fois avoir cet effet sur nous, rejaillir dans nos âmes et nous amener à une saine réflexion, à nous amener à bien comprendre ton plan, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout, Seigneur. Malgré nos résistances, comme ce fut le cas du prophète Jonas, toi, tu es le Dieu qui mène à destination. Tu es le Dieu qui amène à maturité ton peuple. Donc, assiste-nous ce soir, bénis-nous par ta présence. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. On est en période, comme on voit, en période estivale, où les gens prennent des vacances bien méritées. Mais ça n'enlève rien au fait que la parole de Dieu se doit d'être annoncée. Que ce soit en direct, en différé, que les gens soient ici dans la salle, chez eux à la maison, la parole de Dieu, la Bible nous dit, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir porté l'effet escompté par Dieu. Donc, on a commencé il y a une semaine, on a commencé à regarder ensemble le prophète Jonas. Je vais commencer par vous donner la situation géopolitique, on va dire ça comme ça, géopolitique dans laquelle Jonas devait faire son annonce, dans laquelle Jonas allait devoir intervenir auprès du peuple de Ninive. Peuple de Ninive qui, 60 ans après le passage de Jonas, environ, a envahi Israël, a amené une partie des choses captives et a malmené le peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez que Dieu ne le savait pas? Tout à fait, Dieu le savait. Comme les événements de notre temps, on voit les tractations, nous aussi, géopolitiques. On voit les choses qui se déroulent. Est-ce que vous pensez que les choses ont échappé de la main de notre Dieu? Pensez-vous que ce monde est laissé aller de façon aléatoire? La vérité, pour tous ceux qui lisent la parole de Dieu et qui se confient dans le Seigneur, nous savons que ce monde-là n'est pas à la déroute, n'est pas ballotté à la déroute, mais que ultimement le plan de Dieu s'accomplira pour ce monde comme il s'est accompli dans les temps de Jonas. Donc, ce qu'on va regarder un peu ce soir, on va recommencer à regarder le refus du prophète. Je vous avais amené dans les premiers versets où on avait tout lu pour commencer Jonas. Et ensuite de ça, je vous ai dit que je prendrais de façon un peu plus pointue certains endroits dans Jonas. Et au cours des semaines qui viendront où je serai d'office le mercredi, on va étudier Jonas pendant plusieurs mois et on va y prendre des leçons pour notre époque, des leçons pour nos vies. Donc, à partir du verset 3, on avait pris les versets 1 et 2, le verset 3 nous dit « Et Jonas se leva après que Dieu lui ait adressé le commandement. » Et je vous ai dit que Jonas, on le retrouvait ailleurs dans la Bible et je vous ai donné des versets la semaine dernière. pour ceux qui la chose échappe peut-être, les choses sont gardées par l'Église. Donc, vous pouvez aller dans l'enseignement que j'ai donné sur le livre de Jonas. Et on voit que Jonas en était pas à sa première prophétie. On voit que Jonas était impliqué. Et le verset 3, il nous dit, après que Dieu ait parlé à Jonas, et c'est cette portion-là qu'on va regarder, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Donc, notre homme, Jonas, veut fuir, pense fuir la présence de Dieu. D'ailleurs, il prend le chemin exactement opposé à sa destination. Exactement opposé à la destination, dans l'autre sens de Nénive, c'est là qu'il s'en va, à Tarsis. Et cet endroit-là où il veut aller pour échapper à Dieu, sur la rive orientale du Tigre, dans l'est de la Galilée, c'est là dont se trouvait Néné, et lui va aller à Tarsis, complètement au sud, près de l'Espagne, et les navires phéniciens qui entretenaient les liaisons commerciales entre Jaffa et l'Espagne, c'était une destination finale. C'est pour ça que je vous ai donné un peu de géographie. Après ça, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, c'était le bout du monde pour dans le temps. Donc, après ça, la navigation n'était plus vraiment connue. Donc, notre homme veut fuir le plus loin possible dans ce qui est possible dans le temps où lui vit. Il est à l'extrême limite occidentale du trajet. Au-delà de ça, comme je vous dis, c'était un peu l'inconnu. Le contraste entre l'ordre que Dieu a donné et la réponse de Jonas est on ne peut plus clair. Dieu lui donne un ordre clair. « Va à Nénive, la grande ville, et fais-y une proclamation. » Et notre homme, rappelez-vous, je vous en ai parlé la dernière fois, avait des raisons de fuir. Il y avait des raisons, le fait que les Ninivites étaient un peuple très cruel. Mais la raison principale, ça, c'en était une. Et je vous avais dit, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit, c'est comme si dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, Dieu aurait dit à un Juif, « Lève-toi, va en Allemagne, puis va dire à Hitler que je vais mettre son armée à terre. » Je ne crois pas que cette personne-là aurait été très, très chaud à l'idée d'aller à cet endroit-là. Pour un juif, dans ce temps-là, eh bien, c'est un peu, pas tout à fait la même chose, un peu la même chose. Il s'en allait annoncer une mauvaise nouvelle. Les Ninivites à Nénive étaient des gens cruels. Je vous l'ai expliqué un peu comment ces gens-là faisaient la guerre. Donc, on s'imagine que, mis à part la peur, il y avait, et on va le voir plus loin, dans les textes, il y avait le fait que Jonas était un patriote. Et Jonas, pour lui, le salut était juif. Et Jonas va prendre une décision. Il connaît la loi de Dieu. Il connaît Dieu. Je vous ai montré dans la dernière exposé que je vous ai fait qu'il avait déjà prophétisé, qui était connu dans son petit beau. Et soyons clairs, qu'est-ce qui amène un homme, prophète, qui connaît Dieu, qui a déjà prophétisé au milieu du peuple? Sa prophétie est arrivée, on l'a vu à ma dernière intervention. Qu'est-ce qui mène un homme à poser un tel geste? Et avant qu'on rentre plus approfondi dans le texte, il faudrait s'arrêter et dire, OK, le gars, il ne voulait pas tantôt avoir affaire avec les Ninivites parce que c'était des gens cruels. Il y avait aussi le fait que c'était un homme très patriote, on va dire ça de cette façon-là, et était un homme intelligent. Il ne voulait pas aller à Ninive et c'était pas par... C'était vraiment très, très, très délibéré. Et on le voit à la fin des textes qu'on prendra dans quelques semaines. C'est-à-dire, Jonas savait anticiper l'œuvre de Dieu. Comme il était prophète et qu'il avait déjà vu Dieu agir, donc il était capable d'anticiper un peu. Puis, il va le dire à la fin, « C'est ce que je craignais, Seigneur. » C'est ce que je voulais pas qu'il arrive. Je voulais pas qu'ils se repentent. Je voulais que ces gens-là décèdent, meurent, que le feu descende du ciel, qu'ils soient annihilés. Donc, qu'est-ce qui motive sa fuite? Dans l'Exode, on nous dit que les gens qui ne suivaient pas la loi, et c'est ce qui a, c'est ce qui, à quoi Jonas avait accès, qui méritait la mort. Et Jonas veut que ces gens le meurent. Et c'est bien ça que je veux que vous reteniez. Qu'est-ce qui nous empêche souvent d'obéir à Dieu? L'amertume. L'amertume contre des situations, voire contre des églises, voire contre des gens dans l'église, voire contre des gens dans notre famille. L'amertume, c'est un mal qui peut vous amener à désobéir à Dieu. L'amertume est quelque chose de dangereux parce que l'amertume amène la haine, l'absence complète de compassion. Vous savez que l'amertume fait ça. Quelqu'un qui est très amer dans la vie, qui s'est passé des choses ou qu'il y a une situation qui l'a profondément blessé et qui développe de l'amertume, ça peut se changer en haine et ça peut se changer en manque de compassion. Et c'est pour ça que notre homme se sauve. D'ailleurs, et j'y reviendrai en temps et lieu, mais dans Jonas chapitre 4, les versets 1 à 3, il est écrit, « Ceux des plus forts à Jonas, il fut irrité. » Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, ce n'est pas ce que je disais encore lorsque j'étais dans mon pays. » Là, on va voir sa motivation profonde. « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. » Ça veut dire, s'il savait ça de Dieu, il est en train exactement de faire l'inverse. Il dit, « Toi, t'es ça, mais moi, je suis pas miséricordieux. Je suis pas compatissant. Je suis pas content parce que t'es condamné pas. Je veux qu'il soit condamné. » Donc, il va dire ici, « Lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. » Verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Faut avoir la tête dure, là. Faut être vraiment amer pour arriver là. Et notre homme était rendu là. Et ça n'empêchait à rien qu'il soit prophète. Il avait juste besoin d'être corrigé. Pour le peu qu'on est dans la salle, si je vous demanderais, et je ne pense pas que personne lèverait la main, qui aime la correction? Généralement, non. Mais la correction, quelquefois, elle est nécessaire. On ne dit pas « Amen », vous savez, je vous l'ai déjà appris. On dit « Ouch ». Donc, Jonas veut pas faire partie du plan de Dieu. Généralement, les gens veulent faire partie du plan de Dieu, mais lui veut pas en faire partie. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent via le direct sur le net, qu'il y a des personnes dans la salle, il y a des gens qui vont nous écouter en différé plus tard. Et je sais que cette portion-là de l'Écriture peut interpeller directement certaines personnes. Et notre homme fuit, désobéit, parce qu'il est amer, il n'aime pas les gentils ou les païens, probablement qu'il savait qui était Ninivite, parce que Ninive était une ville extrêmement grande pour le temps, extrêmement puissante, et il avait sûrement entendu tout ce que les Ninivites avaient fait à la guerre. Les génocides, ce que je vous ai conté légèrement à la dernière fois, là, hein, ils mettaient des têtes qui avaient tranché dans des catapultes, là, et ainsi de suite. Il faut bien comprendre qui étaient ces gens-là et comprendre que Jonas ne voulait pas du pardon de Dieu pour eux. Jonas, qu'est-ce qu'il voulait pour eux? C'est la condamnation. Et c'est ça qui amène Jonas. Parce que Jonas croit qu'il réfléchit, et qu'est-ce qu'il fait? Ça a aussi du bon sens, parce que, voyons donc, on ne peut pas prendre ces gens-là et leur pardonner l'impardonnable. Mais Dieu était prêt à pardonner. Qui étiez-vous, vous qui m'écoutez, avant votre conversion? Moi, je n'ai pas apporté de jugement sur personne. Je peux regarder qui j'étais, moi. Complètement dans mon péché, vivant selon mes passions, et ainsi de suite. Et je ne méritais pas d'être sauvé, soyons clairs, là. Et pourtant, si ça aurait été Jonas qui aurait été maître de mon salut. Non, je vous amène à une réflexion. Si Jonas aurait été maître de votre salut, il y a des petites questions à se poser sur qu'est-ce qui serait arrivé de nous. Donc, ceci étant dit, Jonas refuse de partir. Pourquoi? Parce que à ses yeux, et c'est la deuxième chose que je vais vous amener, à ses yeux, il est juste que les Ninivites meurent. Peut-être que tu as été dans des situations au cours de ta vie où tu as trouvé qu'on t'a traité injustement. Et que tu as dit, mais Seigneur, tu devrais frapper cette personne-là. Et Dieu l'a béni. On ne mettra pas des mots quelquefois sur nos émotions, là. Mais quelquefois, il y a des émotions dont on est tributaire qui sont fortes, là. Où on se sent lésé, où on se sent diminué, puis on dit, mais Seigneur, frappe-le. Puis le Seigneur va bénir cette personne-là. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais si le Seigneur te traiterait, toi aussi, selon ta propre folie, eh bien, on ne serait pas là pour en parler. Soyons clairs. Donc, notre homme, Jonas, pour lui, la repentance pour les Ninivites, c'est sans appel. Il ne devrait pas en avoir. Donc, il prend un peu la place de Dieu dans le jugement. Et quand Dieu lui donne l'ordre, peut-être que c'est quelque chose, une amertume qui germait depuis des années chez lui. Et il était dans son petit patelin, puis il disait, « Seigneur, je ne comprends pas que ce peuple-là, je ne comprends pas que tu les laisses aller. » Est-ce que ça vous est arrivé, des situations que vous ne comprenez pas? Et Dieu ne vous demande pas de les comprendre non plus. Puis peut-être qu'il était dans son petit patelin, puis il disait, « Mais comment ça se fait que tu n'annihiles pas ces gens-là? Ils sont fous! » Et Dieu y adresse la parole à un moment donné. Mais il ne lui dit pas ce qu'il veut entendre. Et notre homme décide lui-même de devenir un transgresseur. D'accord? C'est la vérité, là. Eux autres, c'est des transgresseurs. Jonas qui dit, moi, je suis un gars juste, correct, je vis selon la loi. Et quand Dieu lui donne un ordre, il se transforme par la haine, par l'amertume. Il se transforme en transgresseur, lui-même. Le jugement qu'il a porté chez l'autre colle à lui-même. Vous comprenez? Pas dans le même type, mais colle à lui-même. Et c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, 60 ans plus tard, peut-être que Jonas, le Seigneur lui avait parlé, mais 60 ans plus tard, Israël va être envahi, c'est-à-dire au royaume du Nord, le peuple amené en captivité environ vers 722 avant Jésus-Christ. Amos, le prophète Amos, c'est lui qui va porter le premier message 20 ans après Jonas. Lui-même est un peu répugné à l'idée d'apporter une grâce à une nation telle quelle. Et c'est lui qui va annoncer au peuple Allez lire Amos, qui vont être menés en captivité par justement ce peuple-là. Dieu a des voix qui ne sont pas les nôtres. Et il ne nous demande pas de comprendre le plan d'ensemble. Nous ne le pourrions pas. Et réfléchissez un peu. Nous ne le pourrions pas. Je ne pense pas que j'aurais la capacité, que vous auriez la capacité, ou même l'homme le plus intelligent qu'il y a, on comprend des petits bouts. On comprend des petits bouts de vie. On n'a pas une vue d'ensemble. Et on prend des décisions sur ce qu'on connaît. Et n'ayant pas une vue d'ensemble, eh bien, il nous arrive ce qui arrive au prophète Jonas. Je sais que peut-être vous vous êtes dit, quand j'ai commencé ce type d'enseignement-là, vous avez dit, moi, j'aurais jamais fait ça. Dieu me dirait de faire ça. Et voyons donc, c'est Dieu qui me le dit. C'est sûr que je le fais. Je sais que vous êtes des enfants de Dieu, que vous avez zéro ennemi puis une barre. Mais admettons que vous n'auriez des ennemis. Admettons qu'il y a quelqu'un, il ne passe pas avec vous. Il vous a fait de quoi de trop grave. Quelquefois, dans ma relation d'aide, je parle avec des bien-aimés puis il me dit, « Pasteur, ça, je ne peux pas pardonner ça. » Mais je dis, « Tu dois pardonner ça. » Parce que tu dis au Seigneur, « Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » C'est une règle. Puis la personne, juste à y penser, verse des larmes, là. Donc, on n'est peut-être pas si obéissant qu'on pense. On n'est peut-être pas si loin. Et je sais que personne ne va aimer ça, là. On n'est peut-être pas si loin de Jonas, intellectuellement, émotionnellement, qu'on pense. Jonas était un homme intelligent. Jonas, même la fin du livre de Jonas, nous montre que c'est un homme qui est calculateur. Et je vous le prendrai quand on sera rendu là. Donc, Jonas fuit. Loin de la face de l'Éternel, c'est ce qu'il nous est dit. Et je me demande, c'est à quelle distance, ça? Cet homme-là connaissait Dieu, là. Il faut voir l'entêtement, là. Cet homme-là connaissait Dieu. Il faut voir l'amertume. Cet homme-là connaissait Dieu. Il faut voir peut-être la haine qui l'habitait via ce peuple-là. Il décide de fuir loin de la face de Dieu. C'est à quelle distance, ça, loin de la face de Dieu? Ben, c'est la distance la plus éloignée où il pouvait aller. Pour lui, est-ce que vous comprenez? La distance le plus loin que la navigation se rendait sans tomber dans l'inconnu, c'était aux portes de l'Espagne dans ce temps-là. Donc, il a fui le plus loin qu'il pouvait. La question qu'il faut se poser, comment fuit-on Dieu? Le psaume 139, les versets 7 à 10, et je m'excuse ici, à l'arrière, j'ai oublié d'aller donner mes versets. Pardonnez-moi. Donc, le psaume 139, versets 7 à 10, nous dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, c'est exactement ce que notre homme essaie de faire, à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » C'est exactement ce qui est arrivé à notre homme. Et notre homme, il était exactement au courant de ces versets-là. Il a été aveuglé. Il a été aveuglé par sa propre condition d'âme. Donc, ne soyons pas aveuglés par les événements. Il y a une expression qui dit, quelquefois, l'arbre cache la forêt. Parce qu'on est trop collé sur l'arbre. J'avais un bel arbre en face de chez moi. Je pourrais en parler avec mon épouse. Il était rendu haut. Moi, j'ai un 3 étages. Puis il y avait au moins 1,5 étage de plus. Il était très haut, très feuillu. Et hier, sont arrivés une équipe. Ah, j'ai ma femme, il y a des émondeurs dehors. Ils vont tailler l'arbre. Ils vont le rendre un peu plus solide, un peu plus. Ils vont en prendre soin. Non, non, non. Ils l'ont taillé en bio jusqu'au sol. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il est plein de feuilles, cet arbre-là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Et aujourd'hui, j'étais avec un bien-aimé. Il m'a dit, ça dépend, André. Je commence ça. Il dit, j'avais dans ma cour deux frênes. Puis il dit, même s'il y a des feuilles dedans, il dit, ça pourrait, est-ce que c'était un frêne? Je ne sais pas. Je ne suis pas botaniste. J'en ai aucune idée si c'était un frêne. Il dit, probablement, s'ils ont fait une passe comme ça, c'était vraiment un gros arbre, là. Il dit probablement que c'était un frêne, puis la grille du frêne est en train de tuer le cheptel d'arbres à Montréal, puis ils, ils vont planter un autre arbre à la place. J'ai été voir la souche, elle est énorme, là. Donc, dans ma méconnaissance, je vais dire ça comme ça, dans ma méconnaissance, admettons que j'aurais été maître de la situation. Je vais vous dire ça comme ça. Admettons que j'aurais été maître de la situation. J'aurais couru, j'aurais descendu, j'aurais couru là, j'aurais dit, qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de faire ça, retournez chez vous. Mais le frère avec qui j'étais cet après-midi connaissait ça mieux que moi. Puis il m'a dit, c'était probablement un frein. Quand on ne sait pas la suite des choses ou qu'on ne connaît pas le pourquoi, il peut avoir de l'amertume, il peut avoir de la haine. Et Jonas, notre homme, connaissait son petit bout de chemin et il choisit de fuir à l'extrémité du monde connu, je vais dire ça de même, d'alors. Vous savez que Dieu est omniprésent? Amen. Dieu n'est pas omniprésent souvent comme on l'imagine. Là. La théologie nous montre, c'est-à-dire que Dieu est pleinement présent, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais... c'est pas souvent de la façon dont on l'imagine. Et je crois que cela a trompé notre Jonas. Et Dieu l'a poursuivi. C'est-à-dire que quand on parle que Dieu est partout, c'est pas comme l'eau qui remplit ta baignoire, là. Ça, c'est une vision hindouisme de Dieu. Et ce n'est pas de cela dont je suis en train de vous parler. Dieu est omniprésent dans le sens... que Dieu est partout, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il se concentre à un endroit en particulier pour le remplir. Vous comprenez ce que je veux dire? À ce niveau-là, Dieu peut nous laisser une certaine liberté. Est-ce que vous pensez que Dieu aurait pu rattraper Jonas avant qu'il monte sur le bateau? Avant qu'il paye les frais de voyage? On voit qu'il a payé ses frais de voyage. L'omniprésence de Dieu ne veut pas dire une manifestation immédiate. D'ailleurs, c'est souvent ce qui porte les pécheurs à demeurer dans leur péché. Ils ne font pas le lien entre la correction ou Dieu cherche à ramener quelqu'un et il arrive ce que les proverbes, ce que les psaumes nous disent. Dieu ne punit pas. Dieu ne voit pas. Vous vous rappelez pas d'avoir lu ça dans les psaumes? Psaume 73. Je peux vous en nommer d'autres. Ou les gens disent, ben, Dieu ne voit pas. Le méchant, Dieu ne voit pas. Il ne se passe rien. Et Jonas, avec sa mentalité, a décidé de s'en aller. D'aller loin, puis que Dieu envoie quelqu'un d'autre. Romains, chapitre 11, verset 29. Il avait oublié quelque chose, notre ami. Les dons et l'appel de Dieu sont quoi? Irrévocables. Point à la ligne, irrévocables. Hier, j'étais chez un pasteur, j'ai été prié avec eux, et je lui ai dit, ton travail va se transformer, mais tu vas rester ce que tu es. Là. Dieu t'a appelé au ministère, puis si tu vis jusqu'à 100 ans, l'appel, Dieu ne se repent pas, là. Notre travail en vieillissant peut se modifier. C'est sûr que à un moment donné, je parlais avec le frère Lionel, puis je lui disais un peu me promener, faire mes visites en vélo. Et Lionel me dit, tu sais André, il me l'a pas dit textuellement comme je vous le dis là, mais ça voulait dire, tu sais André, là tu es capable de le faire dans 2 ans, dans 10 ans, à un moment donné, c'est sûr. À moins que tu mourras subitement, là, tu ne seras plus capable de le faire. Parce que tu vas vieillir. Aujourd'hui, j'étais en vélo à Laval. Ma femme me dit, annonce la pluie, André. Non, non, j'ai le temps, puis ainsi de suite. Écoutez, là, je me suis caché en tour du pont de la A25, là. Je pensais que la tempête m'emporterait tellement que c'était venteux. Et quand je suis monté sur le pont, il s'y est remis à pleuvoir. Donc, je suis arrivé à destination assez détrempé, ce qui a tout chamboulé ma journée. Et j'ai mangé dans ma voiture un peu en m'en venant, tantôt parce que je n'avais pas mangé encore. Ce que je veux vous dire, nous, on a des plans. Nous, on pense que, mais Dieu sait que lui. Vous comprenez? Dieu sait que. Dieu avait appelé Jonas. Puis même si Jonas avait passé de prophète obéissant, comme on a vu dans l'autre semaine, il était devenu désobéissant. C'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il ne peut pas te corriger. Soyons clairs. Donc, la parole de Dieu nous dit les dons, les appels de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, Dieu choisit une personne, lui donne un ministère, l'envoie, et la même chose qui est arrivée pour les apôtres et ainsi de suite. Et je pourrais vous donner des versets que j'ai écrits ici, où je ne vous parle pas ici de la doctrine, là, Dieu choisit de façon aveugle. C'est une... Et je n'ai rien contre cet homme-là particulièrement, qui n'est plus de nos jours aujourd'hui. C'est une doctrine calviniste qui, je crois, ne tient pas la route avec l'ensemble des versets bibliques. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand Dieu choisit, eh bien, il s'attend à ce qu'on fasse ce qu'il a demandé. Est-ce que tu as été appelé par le Seigneur? Si vous êtes ici, si vous connaissez Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, c'est que vous avez répondu à l'appel. La parole de Dieu nous dit clairement que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, il a fallu que vous soyez convaincus, pas par un homme, par Dieu, que la parole de Dieu était la vérité. Et après votre conversion, la parole de Dieu nous a conduits. L'Esprit de Dieu nous conduit. Et si parfois on fait fausse route, est-ce que Dieu est en droit de faire avec nous ce qu'il fait avec Jonas? Même si on a des récriminations, on va les voir les récriminations de Jonas un peu plus tard. Donc, la parole de Dieu va nous dire, je vais prendre tout simplement dans toute cette panoplie-là de versets que j'avais ici, deux versets. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens, 2, 13. Pour nous, frères bien-aimés, du Seigneur. Nous devons rendre à votre sujet de continuelle grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, tu n'as pas été choisi d'un choix aveugle, comme on nous amène souvent ces versets-là, mais comme je disais à quelqu'un dernièrement, puis c'est un petit aparté de coco, où la parole de Dieu nous dit clairement « En lui, vous avez été élu avant la fondation du monde. » C'est pas toi, ça, c'est en lui. C'est en Christ. C'est lui qui a été élu avant la fondation du monde. Toi, tu as juste rentré dans ce plan-là. Donc, c'est pas un choix aveugle. Soyons clairs. 2 Timothée, 2 13 aussi. Et c'est là que ça va concerner pas mal notre homme, pas mal Jonas. Si, ça dépend de nous, là. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et c'est pour ça qu'il a été chercher Jonas. Dieu demeure fidèle. Ça me réjouit de voir que Dieu aurait pu aller chercher M. Tartampion pour faire le job que Jonas ne voulait pas faire. Là. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Même si on a la tête dure, comprenez ce que je veux dire? Expression québécoise, même si vous avez la tête dure. Même si vous êtes difficile d'obéissance, rendez grâce à Dieu. Dieu n'a pas fini avec vous. Il va encore travailler avec vous. Et notre homme, malgré sa rebiffade, malgré qu'il a fui, Dieu ne se repent pas. Il va aller chercher notre homme. Il va aller chercher parce que son désir d'utiliser Jonas, reste entier. Je suis certain que nous, avec la puissance de Dieu, on aurait baissé les bras. On aurait dit, mais il veut rien savoir que ça arrange avec ses troupes. Dieu va retourner chercher Jonas en dépit de son infidélité, en dépit de sa fuite. Pourquoi? Parce que Dieu nous prend tel qu'on est et il nous travaille. Et pour qu'il nous travaille, il faut qu'il y ait des situations, là. Est-ce que tu es content que le Seigneur t'a sauvé un jour et qu'il n'a pas dit « Sauvé, je le laisse de même. » Il a continué à travailler avec toi. Vrai? Il a continué à travailler, à changer ton caractère, à changer des comportements. Et ainsi, il a continué à travailler avec nous. Et quelquefois, j'ai déjà entendu des gens lire le livre du prophète Jonas et me dire « Dieu est bon parce que moi, je l'aurais laissé tomber, Jonas. » La personne qui est en train de dire ça est en train de dire « Dieu est bon, sinon il m'aurait laissé tomber. » Mais il ne dira pas de lui-même. Il va le dire de quelqu'un d'autre. Il va le dire de Jonas. Nous, on se voit toujours quelquefois un peu mieux qu'on l'est en réalité. Donc, qu'est-ce qui va arriver? La décision de Jonas de fuir va faire que Dieu va poursuivre Jonas. Malgré sa faiblesse, les hésitations de Jonas, voire clairement sa désobéissance profonde, Dieu a choisi Jonas, Dieu forme Jonas pour ses projets à lui. Si vous m'auriez dit un jour, lors de ma conversion, moi je me suis converti dans l'ancien bâtiment. Je me rappelle, j'avais à peu près 22 ans et des cheveux, à peu près ici, environ. Et je vous passe la suite de mes pensées sur certaines choses. Et le Seigneur a eu pitié de moi, m'a racheté, m'a sauvé. Mais après ça, pour moi, c'est suffisant, là. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'avais pas d'autres projets dans la vie, là. Sauvé, et c'est assez. Dieu avait des projets. Si vous m'auriez dit, un jour, tu vas te tenir devant une tribune, puis tu vas prêcher à des gens. J'aurais dit, oh, n'importe qui, mais moi, je ne ferais pas ça. Pourquoi? Parce que j'étais un homme très renfermé, très replié sur moi-même. Même après mon mariage, j'avais ce style de caractère-là. Et d'ailleurs, souvent, les gens, pas tout le monde, mais je me rappelle un de mes neveux qui l'a fait, les gens vont me reprocher en disant, André, t'as juste un sujet de conversation. On parle de la parole. Et les gens trouvent que quelquefois, j'ai pas une conversation très élaborée. On va dire ça de cette façon-là. Ça n'empêche en rien Dieu de travailler avec moi. Malgré mes défauts. Malgré mes traits de caractère. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur travaille avec toi. Malgré tes défauts. Malgré tes traits de caractère. Ne porte pas un jugement trop difficile sur autrui. Parce que tu dis, j'utiliserai jamais quelqu'un de même. Je sais que vous ne l'avez jamais dit de d'autres personnes, mais il y a d'autres personnes qui le font. On dit, comment ça se fait que le Seigneur se sert de cette personne? Mais si Dieu savait ce que je sais, je n'utiliserais jamais cette personne-là. Ceci étant dit, Dieu est souverain. Dieu est souverain et Dieu va ramener notre homme dans la bonne voie. Va se servir d'un poisson, on en parlera plus tard, va le ramener dans la bonne voie. Il est vain. Il me reste encore 10 minutes. Il est vain, bien-aimé, de désobéir, de fuir. C'est en vain qu'on fait ça. Parce que notre désobéissance, et je le dis tel quel, montre notre folie. Écoutez, essayez de voir le gars est prophète, puis il fuit à l'extrémité du monde. Dites-moi pas que c'est un geste qui est vraiment intelligent, là. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Et je vous le répète, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Dieu est suffisamment miséricorde et assez puissant pour faire entrer quelqu'un dans son plan. Dieu regarde directement au cœur. Et vous allez voir après ça, tout au long du livre, non seulement il travaille une situation, mais il travaille un homme dans la situation. Non seulement il travaille, mais il va l'amener il va l'amener à la raison. Ce qui m'amène à vous expliquer dans les versets 4 à 16, qu'on va prendre un peu plus tard, Jonas prend le bateau et vous savez, quand on fait un voyage, il y a des impondérables. Est-ce que vous savez ça? Dernièrement, j'ai dit à ma femme, ça fait longtemps, on va aller voir le rocher percé. Et je suis parti. Il y avait le pasteur Florent qui savait. J'ai dit à ma femme, j'éteins le téléphone. C'était difficile pour ma femme. Et ça, puis je dis, on va juste partir. Et le frère Gilles Lompré, qui est ici, me dit, il savait lui aussi. Je dis, Gilles, si quelqu'un me cherche, toi, tu vas savoir où je suis. Et j'ai dit, tu vas voir si c'est beau, André. Quand tu arrives dans le haut de la côte, tu vois tout le haut du rocher avec le rocher percé sur tout son long. Donc, j'ai dit à ma femme, j'ai hâte d'arriver là. Mais quand je suis arrivé là, il y avait de la brume jusqu'à l'eau. Je voyais pas le rocher du tout. OK? Puis, il pleuvait. Donc, il y avait de la brume puis de la pluie. Donc, quand je suis revenu, je disais, moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu le lendemain. Il faisait dans l'après-midi un peu moins pire et on a pu aller. Nous, on projette des choses. Dieu sait exactement la température qu'il va faire. Et là, je ne vous parle pas de la vraie température. Il sait exactement où il nous amène. Il sait exactement ce qu'il fait. Et Jonas, qui pensait s'échapper, n'avait pas compté la tempête. N'oubliez pas, là, cette tempête-là, c'était des gens de mer qui étaient là. Ils étaient habitués, eux. Ils étaient habitués d'en voir des tempêtes. Et cette tempête-là leur a fait peur. Je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, je suis allé avec ma femme et mes enfants, dans le temps où mes enfants étaient jeunes, et j'avais été voir les chutes Niagara. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'embarque jamais dans un bateau. Parce que je nage comme une roche. Et donc, si j'embarque dans un bateau, il arrive quelque chose, eh bien, je me souviens du Titanic, même si j'y étais pas. Donc, j'embarque pas dans un bateau. Mais ma femme m'avait poussé. Puis là, j'ai dit, OK, on va y aller. Pourquoi dans ce temps-là, il y avait un bateau qui nous amenait ce qu'on appelle dans le fer à cheval? Hein? C'est fait comme ça, puis il nous amène là. Je me suis dit, bon, ça doit pas être si fait. Et que j'ai pas aimé l'expérience. Donc, en plein soleil, je me rappelle, il faisait chaud, plein soleil, on nous donne un habit de pluie. On nous donne un habit de pluie. Bon, je vais le mettre en dessous de mon bras. Il fait même trop chaud pour porter ça, il fait soleil. Puis il en donnait à tout le monde à l'entrée. Des habits de pluie là, que tu remettais là, jaune, là. Il n'y a pas de COVID dans ce temps-là. Donc, j'ai compris. Quand on a pris le bateau et qu'il nous a amenés, je ne distinguais plus ni le ciel, ni la terre. Tout était gris devant moi. Et je savais que je venais de quitter un quai où il faisait plein soleil. Donc, je savais qu'il faisait beau. Mais dans le milieu de là, c'est comme une brume qui monte à des hauteurs et à d'une largeur et d'une profondeur. Et je me rappelle que le bateau, pour tenir un peu, pour qu'on puisse regarder, il n'y avait rien à voir, tout était gris. Mais pour qu'on puisse, le bateau était, tu sentais les moteurs là, vibrer là, dans le fond, puis ils nous tenaient à peine là, en place. Là. Dès qu'ils ont lâché, le bateau a reculé. Et on était pas mal. Et le bateau tanguait de droite à gauche. Puis j'avais femme, je regrette-tu d'être venu ici? Le bateau allait de droite à gauche, puis ainsi. Puis je voyais les marins, les gens, eux autres, ils jouaient ensemble, ça tenait après le cordon, ils jouaient ensemble, comme si de rien n'était. Moi, je disais, ça va-tu finir? Donc, notre ami Jonas est avec des gens qui connaissent la mer. Et ils ont été effrayés. Qui connaissent la mer, ils ont eu peur. Donc, cette tempête-là a dû être quelque chose. Et on va arrêter ici, parce que je veux qu'on ait une ou deux minutes, tout simplement pour que cette parole-là puisse bien entrer en nous. Donc, qu'est-ce que je vous ai parlé ce soir? J'ai tout simplement terminé mon intro et je vous ai parlé qu'on n'est pas si différent de ça, Jonas. que la miséricorde, quelquefois, qu'on n'accorde pas aux autres, on veut que Dieu nous l'accorde à nous. On a vu que Jonas, en fait, se rend transgresseur comme les Ninivites. On voit que Jonas connaît Dieu. On voit que Jonas connaît Dieu parce qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Je sais que tu es un Dieu compatissant. Il connaît Dieu, fait un mauvais choix et Dieu ne le largue pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne le largue pas, mais il va passer des temps difficiles. On va le voir à ma prochaine intervention. On va regarder la poursuite de Dieu sur Jonas. On va regarder cette poursuite-là. Je l'ai quasiment fini. Oui, je prends une minute. Quand Jonas embarque dans le bateau, paye le prix, personne ne le connaît. Il passe pour un illustre étranger. Et il y a quelque chose que tous ces gens-là vont faire. Ils vont se mettre à invoquer leur Dieu. Puis lui, il est en bas, puis il dort. Là, il y a de quoi de pas normal. On est des hommes de mer, on est des hommes qu'on a déjà vu des milliers de tempêtes. Puis ce gars-là, il a prendre son mollo, il est couché dans le fond. Il y a quelque chose de pas catholique avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de pas catholique avec lui. Donc, les marins vont réagir. Même si c'est des professionnels, Dieu, quelquefois, peut envoyer des tempêtes pour attirer notre attention. Et des tempêtes, je vous ai dit que j'avais été par beau temps, puis ça avait l'air d'une tempête quand j'ai été au chute Niagara. Et quelquefois, Dieu veut augmenter dans les tempêtes notre dépendance à lui. Parce que tout bouge autour de nous. Nous ne pouvons que nous accrocher à lui. Dieu veut attirer notre attention. Est-ce que vivre sans Dieu se peut? La vérité qu'il y a des gens qui vivent sans Dieu, oui, mais ça ne se peut pas. Dieu lui prête encore le souffle de vie. Est-ce que nous, enfants de Dieu, on devrait se rendre compte quand nos vies s'éloignent dans une tempête, et que le Seigneur veut nous rapprocher. Je crois que les tempêtes, quelquefois, seraient plus courtes. Et je vais couper ici, et on va regarder à ma prochaine intervention les marins, la réaction des marins. Donc, on va se lever, si vous voulez bien. Il est 20h juste, et on va prier. On va remettre entre les mains du Seigneur ce qu'on a reçu. Et merci. Donc, on va prier. Le frère Yves Galuchon, qui était aussi un compagnon de travail pour moi, demande de la prière. Le minimum, je l'appellerai, là, mais le minimum, on va prier pour lui. Donc, on va commencer par incliner la tête. C'est votre frère dans le Seigneur. On demande la prière. Seigneur, premièrement, Seigneur, je veux remettre entre tes mains mon frère Yves, qui était pour moi juste un compagnon de travail que je voyais pas abondamment, mais que j'ai vu tout de même sa conversion. J'ai assisté à son affermissement, Seigneur. Et il demande de la santé pour lui-même. Il demande de la prière pour lui-même. Seigneur, Donne à ton fils par compassion. On parle de compassion. Donne à ton fils Yves par compassion, Seigneur, tout ce qui est nécessaire à ton plan, tout ce qui est nécessaire selon ta volonté, Seigneur, à ce que tu veux faire avec lui, à où tu es en train de l'amener, voire même, Seigneur, qu'il puisse obtenir une guérison complète de ta main, Seigneur. Où, ô Dieu, si autre chose place mon frère dans une situation délicate, je te demande, Seigneur, de déposer ta bonne main sur ce bien-aimé, Seigneur. C'est un homme, Seigneur, qui est tranquille, on ne l'entend pas beaucoup, Mais Seigneur, tu sais toi qui il est. Donc je te demande dans le nom de Jésus de faire grâce à ce bien-aimé. Et par la même occasion, Seigneur, je veux tout simplement remettre ton peuple entre tes mains, ton peuple qui retourne à la maison. Bénis ton peuple. Que la parole puisse être comprise, assimilée, réfléchie. Seigneur, nous ne sommes pas si différents de ce qu'on croit être à l'extrémité où on pourrait dire « je ne ferai jamais ce que Jonas se fait ». Miséricorde, Seigneur, sur nous, comme tu as eu miséricorde de notre frère Jonas dans les temps où il te servit. Donc, que ta parole puisse avoir l'effet escompté sur nous. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit dimanche. On parle en présentiel. Sinon, vendredi, il devrait avoir quelque chose. Soyez bénis.